Chapitre 5.
L'hôpital est tranquille, assoupi autour de son jardin dénudé, comme je l'ai quitté ce matin. La plupart des pavillons sont fermés, regroupés ailleurs dans une structure plus moderne, moins humaine. Muriel ajoute qu'elle a passé l'été 98 dans ce jardin, sous la fenêtre où l'on soignait sa fille. Il y a dans sa voix la même nostalgie que si elle racontait la maison de vacances qu'elle est obligée de vendre. J'écoute, je hoche la tête, je ne dis rien, je fais comme si j'étais normal, comme si j'étais docile, comme si j'allais guérir. Prévenu par téléphone, le neuropsychiatre nous attend. Je tiens à passer d'abord au service comptabilité pour prouver que je suis solvable, donner mes références à American Express, expliquer ma situation. Gentiment, l'employé me répond qu'il n'y a aucune urgence. Ils sont tous persuadés que je vais rester longtemps. C'est la seule solution au problème que je pose. Martin Harris ne peut pas vivre en double. Il existe sans moi, je n'ai qu'à me rendormir.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la voiture, Martin.
J'acquiesce. Elle m'a dit tant de choses. Elle est sûre que je suis le bon. L'autre lui a donné un vrai malaise, l'impression d'être un produit fabriqué, de répéter sans âme des connaissances apprises par cœur, tandis que moi, je l'ai ému à chaque phrase, et plus encore à travers mes silences, pendant qu'il débitait son rôle. Elle est certaine que je suis encore sous le coup de la réaction au vaccin antitétanique. Mon vertige de tout à l'heure n'a aucune gravité. Le médecin va me rassurer et, si le cœur m'en dit, j'ai son adresse. Elle rajoutera un couvert au dîner. Elle sera contente que je connaisse ses enfants. Elle parlait lentement, répétait les mêmes mots au fil des rues. Elle avait l'air sincère, mais c'était pour que je me laisse ramener sagement ici et qu'on m'interne. Elle m'embrasse sur les joues.
« À ce soir ?»«
Si tout va bien, merci. »
Tout ira bien. J'ai une totale confiance. C'est un mec formidable.
Il a sauvé ma fille. Elle s'en va très vite. Je reste debout dans la salle d'attente, les yeux fixés sur son taxi qui manœuvre. Je ne la reverrai plus. Je ne sortirai pas d'ici.
Monsieur Harris ?
Je marque un temps, me retourne pour dire oui. La secrétaire me conduit jusqu'au bureau du vieux monsieur à tête de mouton qui souriait avec sérénité quand je suis sorti du coma. Je n'oublie pas sa phrase d'accueil, les premiers mots de ma deuxième vie. « Alors, quoi de neuf ?»« Ravi de vous voir en pleine forme, monsieur Harris. » Je lâche sa main. Il est myope, il fait de l'humour ou il s'entraîne à mentir. Pour le petit vertige dont m'a parlé Madame Caradé au téléphone... Ne vous inquiétez pas, elle a raison, c'est une réaction classique dans votre état. Vous avez consommé de l'alcool ? Je dis non. Abstenez-vous jusqu'à ce soir et demain, il n'y paraîtra plus. Il m'étudie en silence, le sourire immobile, comme un artiste qui admire son œuvre. Alors ? De quoi voulez-vous que nous parlions ? Je baisse les yeux, regarde une tache d'encre sur le tapis. Quelque chose vous préoccupe ? Je suis là pour tout entendre, monsieur Harris. Sa voix chaude et morne doit pousser les gens aux confidences. Il a tellement l'air de s'ennuyer tout seul. Après avoir écouté mon silence une dizaine de secondes, il enchaîne comme s'il me répondait. D'un autre côté, c'est très bien d'être allé affronter la réalité extérieure, même si c'était un peu prématuré. Vous êtes marqué sortant, mais le temps que votre cerveau élimine le trop-plein de glutamate, je vous conseille de rester tranquille chez vous 2 ou 3 jours. Je n'ai plus de chez moi. À peine un tressaillement. Son épique vers le sous-main en cuir vert où est posée ma fiche sur le dossier médical Harris Martin. C'est-à-dire, en arrivant à votre appartement, vous ne vous êtes pas reconnu ?
Voilà. Vous pouvez faire quelque chose ? Dis-je avec une bouffée de rancune.
Un petit problème de mémoire ?
Un excès, au contraire. Trop de mémoire pour 2.
Plus il est aimable, plus j'ai envie de l'agresser. Il déplace un presse-papier, se laisse aller en arrière. Je vous écoute. Alors je raconte ma situation, une fois de plus. Mais là, je l'expose de manière à passer pour un mythomane, pas dupe.
et j'en rajoute, comme si je lui en voulais de m'avoir ramené à la vie dans la peau d'un autre. »
Il a cessé de sourire. Il se lève, contourne son bureau, vient s'asseoir sur le fauteuil à côté de moi. Il réduit la distance. On oublie le médecin, on va se parler d'homme à homme. Je serre dans mes poings une violence que je ne reconnais pas. Ça existe, monsieur Harris.
Quoi, ça existe?
Ce genre de transfert. Je vais être brutal, ajoute-t-il, de plus en plus serein.
Je peux?
Il joint les doigts devant son nez, en appui sur l'accoudoir gauche, tout tordu pour me faire face.
Peut-être que vous croyez ne pas être amnésique. L'amnésie ne signifie pas toujours la perte de la mémoire, cher monsieur.
C'est plus complexe. Elle peut signifier aussi le refus de renouer le fil.
Quel fil?
Il déglutit, caresse l'acier de son bracelet montre.
Le coma est une terra incognita fascinante, sur laquelle nous ne possédons que des données théoriques, des évaluations, des échelles. Si je vous dis que vous étiez noté 4 sur 11 au test de Glasgow, ou que je vous indique la mesure de vos potentiels évoqués, vous ne serez guère plus avancé. Et moi non plus, maintenant que vous en êtes sorti. Nous tâtonnons, nous constatons, nous classifions, mais nous ne savons quasiment rien. Ou alors seulement en écoutant nos patients.
Vous êtes à peu près le 200e que je ramène à la surface, que j'accueille, dirons-nous. Et je crois que j'ai rencontré tous les cas de figure. La confusion, la prostration, l'exubérance, les récits aux frontières de la mort avec le tunnel de lumière et les anges, le détail de tout ce qui s'était dit autour du lit et que le patient avait parfaitement capté, le syndrome de Korsakoff qui efface les souvenirs douloureux, les lésions irréversibles ou non, la perte complète ou partielle de l'identité, la récupération immédiate ou étalée sur des années. Devenu flou, son regard me traverse. L'un des cas les plus intéressants, 6 semaines avant vous, était celui d'un jeune homme qui avait parfaitement recouvré toutes ses facultés, sauf une. La politesse sociale. Quand une visite l'ennuyait, il le disait. Quand une personne sentait la transpiration, il le lui signalait. Si quelqu'un était laid, il lui en faisait la remarque. À chaque membre de sa famille, il disait la vérité de ses sentiments, ce qui a causé les drames effroyables. Et impossible de lui faire comprendre que socialement, on est tout le temps obligé de mentir. Il trouvait ça absurde, inadmissible, voire cocasse, un peu comme si on lui avait exposé la nécessité morale d'uriner sur les gens qu'on rencontre. Non seulement l'empreinte avait disparu, mais la logique avait rempli l'espace.
Quel rapport avec moi?
Ce jeune homme, dans son existence précédant le coma, avait beaucoup souffert d'autocensure. Enfance brimée, pensionnat religieux, caractère introverti, homosexualité refoulée, formation de diplomate.
Je répète ma question.
C'était pour vous faire mesurer le travail occulte et, je le redis, logique, qui peut s'exercer durant une phase de coma profond, où le cerveau fonctionne à plein rendement, nous sommes de plus en plus nombreux à le croire. Simplement déconnecté de sa relation habituelle avec le monde ambiant. Dans votre cas, imaginons par exemple que vous soyez amoureux fou d'une femme prénommée Lise. Vous la courtisez, vous la suivez, elle vous obsède, vous savez presque tout sur elle. Mais elle est mariée, heureuse en ménage, elle vous l'explique en toute certitude et sincérité, elle vous repousse en ne vous laissant aucune chance. Au contraire, elle vous minore, vous dévalue en invoquant sans cesse l'image castratrice de son mari. Ce mari qui, par ailleurs, est un homme brillant, socialement désirable, physiquement supérieur. Quel devient alors le rêve impossible de votre vie? Être lui, à sa place, marié à cette personne aimante et comblée. Or, le coma s'apparente parfois à une sorte de laboratoire du rêve. Il rend possible, authentique et réalisable ce qui, en conditions normales de fonctionnement, relevait d'une simple chimère. Vous me suivez? Tout ce que vous avez appris sur cet homme, tout ce que vous avez soupçonné, senti par empathie, déduit, extrapolé, devient vrai, devient vous. À votre réveil, vous êtes convaincu d'être lui.
et l'indésirable, le précédent vous-même, est refoulé dans l'inconscient, incarcéré, détruit. Je l'ai écouté, les jambes croisées, tétanisé. Mais attendez, ce n'est pas trois ou quatre renseignements que j'ai dans la tête, c'est une mémoire complète. Il sourit en baissant les paupières. Normal, c'est à cause du glutamate. Lorsque le cerveau est privé d'oxygène, il libère en quantité massive ce neuromédiateur qui a un rôle clé dans la gestion des souvenirs. C'est lui qui favorise la transmission synaptique. D'où votre illusion aujourd'hui de posséder la mémoire complète de l'homme sur lequel vous avez effectué un transfert. Mais une mémoire, ça ne s'invente pas. Glutamate ou non, je ne me suis pas transféré dans ce type. J'ai vécu sa vie, toute sa vie. L'enfance, les études, les expériences professionnelles, les deuils, la vie conjugale. 1000 détails plus révélateurs les uns que les autres. Comment voulez-vous que je sache tout ça ?
Il prend une longue inspiration, se relève et va jusqu'à sa fenêtre. Écarte le rideau qui donne sur un mur. Là, cher monsieur, nous quittons le domaine du rationnel. Tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'il y a des exemples. Et j'en ai moi-même rencontré. Mais cela ne devrait pas se dire au sein d'un établissement comme celui-ci. Je vous en parle donc à titre privé, en vous laissant seul juge de phénomènes que la médecine officielle continue de trouver parfaitement irrecevables. Il se retourne, s'adosse à la bibliothèque, les doigts serrant le pan du rideau. Un rayon de soleil se faufile sur le parquet entre les nuages. Où voulez-vous en venir, docteur ? Disons que l'esprit, pour assembler les éléments de la fable qu'il construit, va se servir. Pardon ? Notre cerveau est composé de matière et d'énergie, d'accord ? De tissus organiques et d'ondes qui n'interagissent pas forcément en vase clos. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai vidé à distance la mémoire de ce type. Vidé, non, puisque vous me dites que vous êtes à égalité de souvenirs. Scanné, plutôt. L'original est toujours à sa place, mais le double est en vous. Je déglutis, fixe les reflets qui jouent dans les rideaux. Docteur, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé à mon réveil. J'ai l'impression d'avoir eu... Il me laisse mariner quelques instants dans mes points de suspension, termine ma phrase. Une EMI, c'est ça ? Je reviens dans son regard. Qu'est-ce que c'est ? Une expérience de mort imminente, la traduction française de la near-death experience. Vous êtes sorti de votre corps, vous l'avez vu en contrebas, vous vous êtes senti attiré dans un tunnel par un grand courant d'amour et de bien-être. Alors une forme lumineuse vous a fait comprendre que votre heure n'était pas encore venue et qu'il fallait réintégrer votre corps. Je le dévisage, crispé sur mes accoudoirs. Comment le savez-vous ? Les statistiques. 35% de mes patients relatent ce genre d'expérience. C'est une simple hallucination chimique provoquée par l'asphyxie du cerveau et la décharge de glutamate qui s'ensuit. Or, le trop-plein de glutamate provoque un excès d'échanges synaptiques. Trop de portes s'ouvrent à la surface des neurones. Ces portes qu'on appelle les récepteurs NMDA. Conséquence, une surproduction de calcium envahit alors le neurone et provoque sa mort. Le cerveau doit donc fabriquer d'urgence une substance pour bloquer les récepteurs NMDA, en l'occurrence la kétamine, un anesthésique dissociatif qui vous donne la sensation de quitter votre corps, de planer dans l'air, de voir des formes et des lumières. C'est parfaitement normal. Son sourire rassurant m'emplit d'un mélange de rancœur et de déception. Il débouche son stylo, fronce les sourcils, essuie la plume sur son buvard. Je revois la silhouette de mon père flottant dans la blancheur du tunnel. Cette lumière intense et qui pourtant n'avait rien d'aveuglant. Mon père dans sa tenue de jardinier, revenu au temps de sa jeunesse, magnifique et joyeux, me disant doucement, sans ouvrir les lèvres, « N'aie pas peur, Martin. Retourne dans ton corps. Tu auras une deuxième existence. Toi seul vas décider ce que tu en feras. » Il en résulte qu'à votre réveil, les effets dopants du glutamate sur la mémoire sont d'autant plus forts que la kétamine hallucinogène vous a déconnecté du réel. Le scénario que vous vous êtes construit pendant votre coma a ainsi une charge de vérité plus forte
que toutes les informations contradictoires que vous pouvez recevoir à présent. Je ne suis donc pas étonné que vous refusiez d'adhérer à la version que je vous donne. Mais si vous ne croyez pas aux EMI, pourquoi croyez-vous à la télépathie, aux ondes cérébrales qui vont pirater le cerveau des autres ?
Je n'y crois pas, mais je voulais que vous me parliez de votre EMI. Le fait de verbaliser l'hallucination est un progrès considérable pour une première séance.
Son téléphone sonne, il décroche, écoute en fronçant les sourcils.
J'arrive. Il raccroche, soucieux, me dit qu'il est désolé, mais que c'est une urgence.
Et je deviens quoi, moi ? Vous m'endormez, vous me nettoyez le cerveau et je me réveillerai comme j'étais avant ?
Il glisse son stylo dans sa poche intérieure, se ravise et le ressort pour écrire sur son bloc d'ordonnance.
« Je ne vois pas en quoi un coma toxique provoqué pourrait changer quoi que ce soit », marmonne-t-il en notant.
« Vous êtes libre à dîner ? J'aimerais poursuivre cette conversation. J'ai à vous dire d'autres choses dont je ne peux décemment pas faire état dans ce lieu. »
Il barre son en-tête, arrache la feuille du bloc, me la tend.
« C'est à 40 minutes de Paris. Vous pouvez venir avec Madame Caradé, si vous le souhaitez. »
Je regarde l'adresse, plie le papier.
« Vous invitez toujours vos patients à la campagne ?»«
Ramasser les feuilles mortes est une excellente thérapie. »
Non, sérieusement, vous êtes une énigme pour moi, Monsieur Harris.
Quand je tombe sur un cas sortant du schéma habituel, je le résous ou j'écris dessus.
Il désigne le rayon inférieur de sa bibliothèque, rempli de livres qui portent son nom.
En 40 ans de carrière, jamais je n'ai vu quelqu'un remonter du coma avec autant de lucidité immédiate, de maîtrise de soi, autant de fraîcheur, si vous me permettez ce mot.
L'explication que je vous ai proposée n'est qu'une hypothèse d'école. Mais si vous l'examinez à tête reposée, si vous analysez la part de fantasme qui peut composer votre identité actuelle, telle que vous la percevez, à la lumière de vos sentiments pour cet alter ego que vous avez eu trois fois en face de vous depuis ce matin, alors vous pourrez peut-être réveiller en vous l'autre voix, celle que vous ne vouliez plus entendre.
Docteur, concrètement, je suis fou. Il me dévisage avec une amorce de sourire. Je vous dis à ce soir, prévoyez des bottes, c'est humide.